Chapitre 2. Marly. Elle s'était bien habillée pour l'entretien. Mais il pleuvait à Bruxelles et elle n'avait pas d'argent pour prendre un taxi. Elle marcha depuis la gare Eurotrans. Sa main, dans la poche de sa jolie veste, une Sally Stanley qui datait de presque un an, serrait le téléfax chiffonné jusqu'à s'en faire blanchir les jointures. Elle n'en avait plus besoin car elle avait mémorisé l'adresse, mais elle se sentait tout aussi incapable de le lâcher que de sortir de la transe dans laquelle elle se trouvait en ce moment, face à la vitrine d'une boutique de luxe de prêt-à-porter pour hommes, le regard passant de chemise en flanelle conventionnelle au reflet de ses yeux. Ses yeux qui, à eux seuls, suffiraient sans doute à lui coûter ce boulot. Avant même ses cheveux mouillés qu'elle aurait dû demander à Andrea de lui couper. La douleur et l'inertie qui émanaient de son regard n'échapperait pas à Herr Josef Wirek, le plus improbable des employeurs potentiels. Lorsqu'elle avait reçu le fax, son premier réflexe avait été de le considérer comme une blague cruelle, un de ses appels importuns. Les médias l'ont submergé à tel point qu'Andrea avait installé sur le téléphone de son appartement un programme spécial qui éliminait les coups de fil entrant de numéros non inscrits dans son annuaire permanent, ce qui expliquait le téléfax, selon son ami. Comment pouvait-on la joindre autrement? Marly avait secoué la tête et s'était pelotonnée un peu plus dans le vieux peignoir en éponge d'Andrea. Pourquoi Wirek, un collectionneur et mécène immensément riche, souhaiterait-il embaucher l'ancienne gérante discréditée d'une minuscule galerie parisienne? Andrea avait fait non de la tête à son tour, car elle en avait assez de cette nouvelle Marly Krouchkova discréditée, qui passait des jours entiers dans l'appartement désormais, sans parfois prendre la peine de s'habiller. Tenter de vendre un faux à Paris n'était pas aussi rare que Marly l'imaginait, lui avait-elle expliqué. Si la presse n'avait pas tellement insisté pour montrer comment le répugnant Gnas s'était fait berner, avait-elle poursuivi, l'affaire serait passée quasi inaperçue. Gnas était assez riche et dégoûtant pour alimenter un week-end de ragots. Andrea avait souri. Si tu n'étais pas aussi belle, tu n'aurais pas attiré autant l'attention. Marly avait secoué la tête. Et c'était un faux d'Alain, tu étais innocente, tu l'as oublié? Marly était partie dans la salle de bain, toujours vêtue du peignoir usé, sans répondre. Par-delà l'envie de son amie de la réconforter, de l'aider, elle percevait déjà l'agacement d'une personne obligée de partager un espace très réduit avec une invitée malheureuse et qui ne payait pas de loyer. Andrea avait même dû lui avancer l'argent du billet pour l'Eurotrans. Dans un effort conscient et douloureux, elle chassa ses ruminations et se fondit dans le flot dense mais paisible des Belges austères en plein shopping. Une fille en collant coloré et son petit ami à la veste en loden trop grande, propre et souriant, l'effleurèrent. Au carrefour suivant, Marly remarqua la boutique d'une marque de vêtements qu'elle appréciait beaucoup lorsqu'elle était étudiante. Elle se sentait vraiment trop vieille pour ce genre de fringues. Dans son poing caché et blanc, le téléfax. Galerie Dupéret, 14 rue Aubeur, Bruxelles. Josef Wirek. La réceptionniste, dans l'antichambre froide et grise de la galerie Dupéret, paraissait avoir poussé là. Jolie plante probablement vénéneuse, enracinée derrière une plaque de marbre poli dans laquelle était incrusté un clavier en émail. Elle leva des yeux brillants à l'approche de Marly, qui imagina le cliquetis et le vrombissement d'un obturateur, puis l'envoi de son image débraillée au fin fond de l'empire de Josef Wirek. « Marly Krouchkova, » dit-elle en se retenant de sortir la feuille froissée du fax pour la lisser dans un geste navrant sur le marbre froid. « Je viens voir Herr Wirek. »« Fräulein Krouchkova, » dit la réceptionniste, « Herr Wirek ne peut être à Bruxelles aujourd'hui. » Marly observa les lèvres parfaites, à la fois consciente de la douleur que ces mots lui causaient et du plaisir aigu qu'elle découvrait à chaque nouvelle déception. « D'accord. Il a toutefois prévu de mener l'entretien par une liaison sensorielle. Si vous voulez bien emprunter la troisième porte sur votre gauche. » La pièce était vide et blanche. Sur deux murs, deux toiles sans cadre ressemblaient à des morceaux de carton tachés par la pluie et multiperforés par toutes sortes d'instruments. Katatonenkunst. Classique. Le genre d'œuvre que l'on vendait à des comités envoyés par des conseils d'administration de banques commerciales hollandaises. Elle s'assit sur un petit banc en cuir, et s'autorisa enfin à lâcher le fax. Elle était seule, mais présumait qu'on l'observait d'une manière ou d'une autre. « Fräulein Kruschkova !» Un jeune homme qui portait une blouse de technicien vert foncé se tenait dans l'embrasure de la porte face à l'entrée. « Dans un instant, je vais vous demander de traverser la pièce et de pénétrer ici, s'il vous plaît. Veuillez prendre la poignée lentement, avec fermeté, afin de permettre le maximum de contact avec la chair de votre paume. Passez le seuil avec précaution. Vous risquez d'être un peu désorienté. » Elle battit des paupières. « Pardon, mais la liaison sensorielle, » précisa-t-il, avant de se retirer, la porte se refermant derrière lui. Elle se leva, tenta de redonner forme au revers trempé de sa veste, se passa une main dans les cheveux, puis se ravisa, prit une grande inspiration et traversa la pièce jusqu'à la porte. La phrase de la réceptionniste l'avait préparée au seul type de liaison sensorielle qu'elle connaissait, un signal SimSteam distribué par Belle Europe. Elle s'imaginait avec un casque équipé de dermatrode et Virec se servant d'un témoin passif comme caméra humaine. Mais la fortune de Virec était sans commune mesure. Au contact de la poignée de laiton froide, elle eut l'impression que la matière s'agitait sous ses doigts, passant en revue un échantillon tactile de texture et de température en une seconde. Puis, la substance redevint métallique, du fer-peint en gris s'éloignant sur une ligne de fuite, vieille balustrade que tenait désormais Marly, émerveillée. Quelques gouttes d'eau frappèrent son visage, une odeur de pluie et de terre mouillée. Un fouillis de petits détails, son souvenir d'un pique-nique arrosé en école d'art affrontant la perfection de l'illusion de Virec. Sous elle s'étendait le panorama caractéristique de Barcelone, les étranges flèches de la Sagrada Familia embrumées. Elle saisit également la rambarde de l'autre main pour repousser le vertige. Elle connaissait cet endroit. Elle se trouvait au parc Güell. La féerie défraîchie d'Antoni Gaudi sur sa colline aride, derrière le centre de la ville. À sa gauche, un lézard géant en éclats de céramique était figé en pleine descente sur une rampe de pierre rugueuse. Son sourire fontaine arrosait un massif de fleurs fatiguées. « Vous êtes désorienté. Je vous prie de m'excuser. » Joseph Virec était perché un peu plus bas qu'elle, sur l'un des bancs tortueux du parc, ses larges épaules voûtées sous un doux pardessus. Elle avait toujours plus ou moins connu ce visage. Lui revint alors, étrangement, une photo de Virec en compagnie du roi d'Angleterre. Il lui sourit. Sa grosse tête avait une forme agréable sous des cheveux gris foncés et raides, coiffés en brosse. Ses narines, constamment évasées, paraissaient flairer les vents invisibles de l'art et des affaires. Ses yeux bleu pâle, immenses, derrière des lunettes rondes sans monture, une de ses marques de fabrique, dégageaient une douceur étrange. Et je vous en prie. Il tapota le banc et sa mosaïque aléatoire composée d'éclats de faïence d'une main fine. Veuillez m'excuser d'être ainsi dépendant de la technologie. Je suis confiné depuis plus d'une décennie dans une cuve, dans une affreuse banlieue industrielle de Stockholm ou peut-être en enfer. Je ne suis pas au mieux, Marly. « Venez vous asseoir. » Elle inspira profondément, descendit les marches de pierre et traversa les pavés. « Herr Virec, » dit-elle, « j'ai vu une de vos conférences à Munich il y a 2 ans. Une critique de Fessler et de son Nautisches Theater. Vous aviez l'air en forme. » « Fessler. » Le front bronzé de Virec se plissa. « Vous avez vu un double, un hologramme peut-être. » On fait tout un tas de choses en mon nom, Marly. Certaines parties de ma fortune sont devenues autonomes peu à peu. Il leur arrive parfois même de s'affronter ou de se révolter face aux extrémités fiscales. Toutefois, pour des raisons si complexes qu'elles demeurent cachées, ma maladie n'a jamais été rendue publique. Elle s'installa près de lui et regarda le trottoir sale entre les bouts éraflés de ses bottes noires parisiennes. Elle vit un caillou pâle et brisé, un trombone rouillé, le petit cadavre poussiéreux d'une abeille ou d'un frelon. C'est extrêmement détaillé. Oui, dit-il, grâce aux nouvelles biopuces MAS. Je dois vous prévenir que je possède autant de détails sur votre vie privée. J'en connais plus que vous-même sur certains points. Ah bon ? Il était plus facile, découvrit-elle, de se concentrer sur la ville, de repérer les grands sites dont elle se souvenait suite à une demi-douzaine de séjours estudiantins. Là, juste ici, ce devaient être les Ramblas, les perroquets et les fleurs, les tavernes qui servent de la bière sombre et des calmars. Oui, je sais que c'est votre compagnon qui vous a convaincu que vous aviez trouvé un original de Cornell perdu. Marley ferma les yeux. Il a commandé la contrefaçon et engagé deux étudiants talentueux et un historien reconnu qui traversait quelques difficultés personnelles. Il les a payés avec de l'argent puisé dans votre galerie, comme vous l'avez sans doute deviné. Vous pleurez ? Marley acquiesça. Un index froid lui tapota le poignet. J'ai payé Gnas, j'ai payé la police pour qu'elle lâche l'affaire. Inutile d'acheter la presse, elle n'en vaut que rarement la peine. Et peut-être que désormais, votre petite notoriété va jouer à votre avantage. Hervirec, je... Un instant, je vous prie. Paco, viens ici, mon petit. Marley ouvrit des yeux et vit un enfant d'à peu près 6 ans engoncé dans une veste de costume sombre complétée par une culotte courte, des chaussettes pâles et des bottines à boutons noirs en cuir. Une mèche lisse de cheveux bruns retombait sur son front. Il tenait quelque chose dans ses mains, une sorte de boîte. Gaudi a commencé le parc en 1900, expliqua Virek. Paco porte des habits d'époque. Viens ici, petit. Fais-nous voir ta merveille.
Signor, dit Paco en zozotant avant de s'incliner et de s'avancer pour montrer ce qu'il avait.
Marley l'observa. Une boîte en bois avec un couvercle en verre. Des objets ?
Cornell ?
Dit-elle, ses larmes oubliées.
Cornell ?
Elle se tourna vers Virek.
Bien sûr que non. L'objet intégré à ce morceau d'os est un biomoniteur Brown. Cette œuvre est la création d'un artiste vivant.
Il y en a d'autres ?
D'autres boîtes.
J'en ai trouvé 7, en 3 ans.
La collection Virek, voyez-vous, est une sorte de trou noir. L'immensité anormale de ma fortune attire irrésistiblement les fouilles les plus rares du cerveau humain. Un processus autonome auquel je porte généralement peu d'intérêt. Mais Marley était fascinée par la boîte, par son évocation de distance impossible, de perte et d'aspiration. Elle était sombre, douce et étrangement enfantine. Elle contenait 7 objets. Le mince os cannelé, sans doute conçu pour le vol, et provenant de l'aile d'un grand oiseau. 3 circuits imprimés archaïques, recouverts de dédales dorés. Une sphère blanche et lisse de terre cuite. Un morceau de dentelle noirci par le temps. Un segment d'os, long comme le doigt, sans doute d'un poignet humain, d'un blanc tirant sur le gris, sur lequel était implanté un bout de silicium appartenant à un petit instrument qui devait se trouver auparavant au même niveau que la peau, mais dont la surface était grillée et noircie. La boîte était un univers, un poème, figé aux limites de l'expérience humaine.
« Gracias, Paco. »
L'enfant et la boîte disparurent. Elle en resta bouche bée.
Ah, pardon, j'ai oublié que ces transitions sont trop abruptes pour vous. Mais nous devons toutefois parler de votre mission.
Hervirek, dit-elle, c'est quoi, Paco ?
Un sous-programme ?
Je vois. Je vous ai engagé pour retrouver le fabricant de la boîte. Mais avec vos ressources, Hervirek, dont vous faites partie désormais, mon enfant.
Vous ne voulez pas travailler ?
Lorsque l'histoire de Gnas arnaquée par un faux Cornell m'est parvenue aux oreilles, j'ai compris que vous pourriez me servir dans cette affaire. Il haussa les épaules. Vous devez bien convenir que je suis plutôt efficace.
En effet, Hervirek. Et oui, je veux travailler.
Très bien. Vous recevrez un salaire, vous aurez un compte de frais également, au cas où il vous faudrait acheter, disons, beaucoup d'immobilier.
De l'immobilier ?
Ou une entreprise, ou un engin spatial. Dans cette éventualité, vous aurez besoin de mon autorisation indirecte, qui vous sera presque à coup sûr accordée. Sinon, vous aurez les mains libres. Je vous conseille toutefois de travailler à une échelle sur laquelle vous vous sentez à l'aise, sans quoi vous risquez de vous couper de votre intuition qui est, en la matière, primordiale.
il lui adressa de nouveau son célèbre sourire. Elle inspira profondément. « Mais si j'échoue, Herr Virek, combien de temps ai-je pour localiser cet artiste ?»«
Toute votre vie, » dit-il.
« Pardonnez-moi, » se surprit-elle à dire, horrifiée, « mais j'ai cru comprendre que vous viviez dans une...
Une cuve ?»«
Oui, Marly. Et de ce point de vue sans horizon, je préconise de vous efforcer de profiter de votre existence, de laisser le passé derrière vous, si vous voyez ce que je veux dire. Et, si je vous conseille ceci, c'est que je ne supporte plus ce simple état. Les cellules de mon corps ayant opté pour la poursuite chimérique de carrières individuelles, j'imagine qu'on aurait autorisé un homme plus fortuné ou plus pauvre à enfin mourir, ou à être codé dans un quelconque processeur. Mais je suis visiblement piégé par un réseau complexe de circonstances qui nécessite, si j'ai bien compris, à peu près 1/10 de mes revenus annuels. Ce qui fait de moi, je suppose, l'invalide le plus onéreux du monde. Vos histoires de cœur m'ont touché, Marly. Je vous envie l'harmonie charnelle qui les fait naître. Et pendant un instant, elle regarda droit dans ses 12 yeux bleus et comprit. Un instinct mammalien lui confirmant avec certitude que les personnes extrêmement riches n'avaient plus rien d'humain. Une onde nocturne balaya le ciel de Barcelone comme le mouvement d'un immense et lent volet. Puis, Virek et Gouel disparurent, et elle se retrouva de nouveau assise sur le banc de cuir, à regarder les cartons déchirés et tachés.